Culture sans frontières.
Claude Poulain de La Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicologue de formation.
Musicologue et musicienne.
Et musicienne. Quel instrument ?
Chanteuse.
Chanteuse.
J'ai fait l'art lyrique pendant longtemps.
D'accord, donc pas un instrument, c'est votre voix qui est votre...
Qui est mon instrument. Qui est votre instrument. Je m'accompagne malgré tout au piano.
Et mais vous êtes aussi, depuis quelques années, auteur, autrice, comme on dit, de romans,
oui.
De polars notamment.
Oui.
Alors on va peut-être citer les deux plus importants, puis qui nous intéressent aussi particulièrement aujourd'hui, il y a le Quatuor Terrestre, pour lequel vous avez reçu le prix Michel Lebrun du polar, et L'Archer de Miloche. Alors, tout de suite pour les auditeurs ou les lecteurs qui s'intéressent à la culture tchèque, Miloche, ça évoque évidemment Miloš Forman. J'imagine que ce n'est pas sur Miloš Forman.
Non.
Mais ça a un lien avec la musique, évidemment, et la Tchéquie est un pays de musiciens également.
Oui, c'est clair que... Alors bon, c'est vrai que c'est le prénom de Miloš Forman qui m'a inspirée. Après, il n'y a rien de plus. Hein. Voilà, c'est le prénom et ça n'a pas été au-delà. Bon, moi, je suis musicienne et évidemment, j'ai préféré écrire sur ce que je savais, sur ce que je connaissais. Et j'ai été très touchée en arrivant à Prague en 1991 par l'omniprésence de la musique. Ça, c'est clair. Après, ce n'est pas la seule raison. Hein. Il y avait aussi, je pense, tout l'aspect historique et ambiguïté historique qui m'a beaucoup frappée en 1991 quand je suis venue pour la première fois.
Qu'est-ce que vous entendez justement par ambiguïté historique ?
Un monde entre deux, c'est-à-dire ni à l'est ni à l'ouest, ni dans le présent ni dans le futur. Une espèce de réalité qui attendait de se déterminer. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant.
C'était très romanesque pour vous à l'époque, c'est
oui,
ça ?
Bah oui, forcément, très romanesque. Et puis, toutes les ambiguïtés sont intéressantes pour un écrivain. Parce qu'elles peuvent déboucher d'un côté ou de l'autre. Et elles enrichissent les personnages.
Alors, peut-être pour revenir à ce séjour en 1991, c'est 2 ans après la chute du communisme, 2 ans après la révolution de velours dont on a fêté le trentenaire, justement, très récemment. Qu'est-ce qui vous a conduit, justement, en pays tchèque à cette époque-là ?
Alors, j'avais une attirance pour les pays dits de l'Est, qui ne sont pas tant à l'Est que ça finalement. J'étais déjà venue dans les années 80 en Pologne, c'est-à-dire, c'est pas du tout la République tchèque, mais...
Mais ça reste l'Europe centrale.
Voilà,
quand même.
Ça reste l'Europe centrale et ça avait été un contact déjà qui avait été fort. J'avais fait un voyage avec l'UNESCO. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais été en contact avec des gens de Solidarność et ça m'avait passionnée. Quand la révolution de velours a eu lieu, j'avais vraiment envie de venir. Voilà.
Est-ce que peut-être justement au cours de votre formation de musicologue, vous avez été, j'imagine, attiré ou intéressé par les musiciens, les compositeurs tchèques, hein. On pense peut-être à Dvořák, Martinů, Jana Hacek. C'était quelque chose qui vous était familier ou finalement que vous avez découvert peut-être plus via votre intérêt pour le pays ?
Oui, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est produit. Dvořák, bien sûr, mais... Pour les autres, non, moi. C'est plutôt après la découverte de 91 que je me suis vraiment plongée dans la musique tchèque. Et puis plus récemment, donc à l'occasion du second roman que j'ai écrit sur le Quatuor Thérèse, donc toute la culture, on va dire, juive, musicale, puisque ça se déroule à Térézine. Et donc des compositeurs comme Gideon Klein, comme Hans, je ne sais pas, je pense...
Krása.
J'ai toujours peur de dire... de faire une énorme faute de prononciation, Hans Krása. Voilà, donc des compositeurs comme ça que j'ai découvert par la suite et que j'ai trouvé passionnant.
Alors, il y a beaucoup de projets d'ailleurs qui existent autour de ces musiciens, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs les musiques interdites, les musiques qui sont nées dans les ghettos pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps, puisque en plus, comme en effet vous parlez de Térézine, c'était un camp très très particulier puisque c'était un camp où ont été concentrés beaucoup d'artistes,
oui.
Et justement ces musiciens où est né d'ailleurs aussi un opéra
Brundibar.
Brundibar, on a eu l'occasion d'en parler souvent aussi sur Radio Prague International. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce pan, on parlait de l'ambiguïté du pays entre passé et présent, est-ce que c'était ça aussi qui vous intéressait?
Bien sûr, ça y contribue parce que Prague, c'est évidemment une mosaïque, il y a le quartier juif, et puis on sent malgré tout aussi une présence allemande, enfin d'un point de vue culturel, et puis évidemment l'identité slave, tchèque, à proprement parler, et ça, on a l'impression que ça vit de manière très harmonieuse, alors qu'en fait, il y a eu des soubresauts terribles. Et c'est dans cette ambiguïté-là que je pense qu'il y a des, comment dire, il y a une espèce de faille, de ligne de faille qui est intéressante à explorer sur le plan romanesque. Parce qu'un écrivain, il doit se nourrir de, justement de tout ce qui est romanesque et donc qui n'est pas dit, qui n'est pas cité, qui n'est pas directement visible.
On ne peut pas déflorer évidemment totalement les intrigues, mais j'aimerais peut-être vous demander de manière très concrète, puisque en effet, comme vous le rappelez, vous n'êtes pas tchécophone, comment est-ce que vous avez travaillé concrètement sur, pour faire vos recherches? J'imagine que sur Térésine, il y a quand même une littérature spécialisée, historique,
j'y suis
qui
allée.
Existe. Et vous êtes allée?
J'y suis allée, mm-hmm. Et j'ai pris plein de documentation. J'ai trouvé aussi de la documentation sonore, des disques évidemment. Et j'ai trouvé aussi beaucoup d'archives visuelles. Et c'est de ces archives visuelles aussi que je me suis nourrie pour restituer une partie des personnages, le quatuor Thérèse en particulier.
Dites-nous peut-être en quelques mots quand même. Allez, c'est quoi ce quatuor Thérèse?
Alors ce quatuor Thérèse, donc c'est quatre musiciens donc qui. Ça ne se déroule pas à Prague. Hein. Le quatuor Thérèse se déroule à Karlovivari. Excusez-moi, Karlovivari. Je le dis très mal.
Karlsbad à l'allemande.
Voilà, je le dirai pas à l'allemande. eu égard à la difficulté justement de ce territoire qui a été qui a changé tellement de nationalités, donc
Fameuses Sudètes. Hein.
Les fameuses Sudètes. Et donc voilà, c'est justement un territoire ambigu qui a changé plusieurs fois de on va dire de main, pour le dire un peu vulgairement. Et donc ce quatuor s'est formé dans l'extrême jeunesse, en plein apprentissage de la musique. Ce sont des jeunes qui faisaient partie de la communauté juive de Karlovivari.
Vous vous êtes inspiré d'un quatuor existant?
Mais je me suis surtout. Non, c'est pas du tout. C'est complètement inventé. Par contre, ce qui est fondé, c'est que Karlovivari, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1938, Karlovivari était la plus grande communauté juive pratiquement d'Europe centrale, une des plus grandes. Il y a même eu le premier congrès sioniste qui s'est produit là-bas. Et donc mon quatuor vit là-bas et évidemment arrivent tous les problèmes que l'histoire a porté avec elle. Et ils sont séparés après le coup de Prague en 1948.
Le coup de Prague, c'est l'arrivée au pouvoir du Parti communiste.
Du Parti communiste, deux restent à Prague, deux partent à Berlin.
Donc en fait un quatuor qui est à la fois ballotté sous l'occupation, la Deuxième Guerre mondiale et ensuite par l'histoire plus récente,
plus contemporaine,
qui est celle de la période communiste en Tchécoslovaquie.
Et ils se retrouvent en 1989 et vont s'établir dans une maison de retraite pour musiciens. Dans les Sudètes, à Karlovivari, et là, toute une série de meurtres surviennent.
Donc évidemment, dans les polars, on ne peut pas parler de la suite, puisque ça, c'est au lecteur de découvrir. Vous êtes à l'heure actuelle aussi en République tchèque pour un projet d'un autre roman. Alors, d'un autre roman futur
dont je peux déjà vous dire le titre.
Donc vous pouvez déjà nous dire le titre, très bien, allez-y.
Tempo de cochon.
Et donc c'est encore une histoire de musique avec le tempo, j'imagine.
Absolument, tempo de cochon.
Alors le cochon, ça fait évidemment référence à quelque chose d'également très compliqué dans l'histoire tchèque, puisque c'est la porcherie de l'été qui était en fait un camp où se trouvait une partie justement de la population d'origine rome pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que vous travaillez justement sur ce sujet aussi très compliqué?
Alors, il y a une part de hasard, là, je dois vous dire honnêtement, parce que, donc, quand j'avais commencé à écrire L'Archer de Miloche, donc, j'étais partie pour un seul roman. Et puis, il m'est apparu quand même que l'histoire tchèque avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est un peu comme une espèce de miroir de l'histoire européenne. Et j'avais envie de travailler sur un autre aspect. Et notamment parce que, globalement, je trouve la population tchèque assez héroïque dans son histoire, assez admirable, sauf peut-être sur cet aspect-là. Et on ne peut pas toujours être complètement dithyrambique, et donc j'ai voulu explorer cette face un peu sombre. Donc je me suis penchée sur l'histoire des Roms, et en faisant des recherches, je suis tombée sur cette histoire qui m'a laissée complètement pantoise. Et j'ai voulu en savoir plus. Et là, carrément, après, je suis partie sur mes personnages qui sont apparus tout naturellement dans cette histoire.
Alors, voilà. On rappelle peut-être en quelques mots, justement, en fait, c'est un site, évidemment, dont, évidemment, les bâtiments n'existent plus, hein, mais il y a des fosses communes, des tombes. On ne va pas vraiment parler de tombes, mais plutôt, en effet, des fosses communes avec la plupart des qui sont décédés dans ce camp pendant la Seconde Guerre mondiale, donc d'origine rome, qui sont justement aux alentours de ce qui était une porcherie qui a été construite sous le communisme et que pendant plusieurs années, depuis en tout cas la chute du régime communiste, les militants roms, évidemment, veulent récupérer pour en faire un lieu de mémoire. Ça a été une longue bataille. Et il y a quelques années, l'État tchèque, en tout cas, après moult tergiversations, a racheté cette porcherie. Et à l'heure actuelle, ce mémorial est en train de prendre forme.
C'est pas encore complètement fait. Hein. Oui, enfin, je pense que de ce point de vue-là, vous êtes certainement plus au fait que moi. De ce que j'ai lu pour l'instant, c'est en voie d'être résolu, mais ça ne l'est pas encore. Sur ce sujet-là. Justement, vous avez parlé des militants roms qui se sont débattus pour obtenir une forme de réparation et puis de lieu de mémoire.
Et de reconnaissance.
Et de reconnaissance, oui. Et donc, c'est sur cette toile de fond que j'ai voulu bâtir mon intrigue. Et aussi sur les tergiversations de la communauté européenne. C'est-à-dire que c'est une double intrigue qui se déroule...
À l'heure actuelle, donc. Alors, ouais, c'est pas un roman historique. Sur quelque chose d'historique, mais...
Il se déroule en 99. C'est-à-dire avant que tout ça trouve une résolution, on va dire, honorable. Mm-hmm. Mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de tergiversations de la part de la communauté européenne. C'est-à-dire des contradictions entre, on va dire, tout son pôle, on va dire, des droits de l'homme, humanitaire, avec la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est positionnée de manière très claire par rapport... un démantèlement de la porcherie et de l'autre côté des fonds de la politique agricole commune qui ont été donnés à la Tchéquie sans aucun droit de regard sur ce qui allait être fait et qui ont été investis dans la modernisation de cette porcherie. Mmh. Donc ce qui a d'ailleurs retardé considérablement sa destruction. Et là-dedans, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une volonté de laisser tout bien enfoui.
Est-ce que la musique, on le disait tout à l'heure, on parlait de tempo pour le titre, en quoi la musique serait-elle présente? J'imagine peut-être via la culture rome aussi, où la musique est très présente.
Oui, via la culture rome, c'est-à-dire là, donc dans les deux premiers livres, c'est vraiment la musique classique. Hein. Bon, moi, je suis de formation classique, donc ce que j'aborde, c'est d'abord un grand violoniste dans l'Archer de Miloche. Dans le second, c'est le quatuor à cordes. Et puis dans le troisième, c'est vraiment la musique rome, effectivement, c'est-à-dire, mais pas que d'ailleurs, hein, pas que, c'est-à-dire tout ce qui est autour, tout ce qui est autour aussi des interactions entre la musique tchèque et la musique rome.
Donc un troisième roman lié au pays tchèque. Est-ce que vous bouclez la boucle ou alors
non, il y en a un quatrième prévu.
D'accord,
un quatrième prévu. Qui sera, je pense, le dernier. Oui, parce qu'en fait j'ai voulu arrêter. Donc c'est une série, c'est pas une série, sous-tendrait des intrigues. Alors que là vraiment c'est j'approfondis des personnages avec leur vie, avec des interactions avec d'autres pays, certains voyages. Ça imprègne profondément leur existence. Et je voudrais terminer sur la grande inondation. 2002, en fait. Parce que moi, ce que j'ai ressenti de tout ce que j'ai lu en documentation, c'est que 2002 a été une espèce d'ouverture de la modernité et fermeture de la page du communisme. C'est-à-dire comme si Prague sous les eaux s'était réveillée après une grande capitale européenne.
Claude Poulain de La Fontaine, merci beaucoup.
Merci à vous.